Mettre fin à l'exploitation animale pour mettre fin à l'exploitation générale. Libre Radio, la radio des morsures qui change le lait en beau. www.libradio.org.
Bonjour à tous. Je vais essayer de pas parler trop vite. S'il y a des concepts ou des mots, j'ai essayé de faire attention, de pas mettre des mots que j'explique pas, en tout cas, qui sont des choses que tout le monde peut pas comprendre. S'il y a des choses que je dis et que vous comprenez pas, des concepts, des mots, mais vraiment vous m'interrompez. C'est hyper important, on en parlait juste avant, moi je viens pas d'un milieu littéraire, sociaux, etc. Et je supporte pas quand je suis à une table ronde ou une conférence de me sentir bête, d'avoir l'impression d'être la seule dans la salle à pas avoir lu les bons livres, connaître les bonnes personnes, connaître les mots, les concepts. Donc vraiment, levez la main et interrompez-moi si jamais il y a des choses que j'explique pas dans la phrase suivante, quoi. Et pareil pour la traduction, hein. Si je parle trop vite, dites-moi genre. Je lis beaucoup parce que ce que je vais dire, parce que j'ai pas une super bonne mémoire et j'ai pas envie d'oublier des choses importantes qui peuvent servir après à, enfin, je veux dire, des petites branches de la réflexion qui mènent à une réflexion plus précise ou plus globale. Donc pardon si je peux pas vous faire le speech comme ça en vous regardant tout le temps dans les yeux. Donc je suis Nora Bouezouni, je suis journaliste. Je suis traductrice aussi et je suis autrice depuis pas très longtemps parce que j'ai écrit un bouquin en 2017. C'est un petit essai qui s'appelle « Féminisme ». Alors pour le jeu de mots, « féminisme » du coup pour la traduction, c'est entre la fin et le féminisme. Alors plein de gens ne savent pas le prononcer parce que c'est un peu genre « féminisme ». Bon, j'aime bien les jeux de mots du coup. Et c'est sous-titré « Quand le sexisme passe à table ». Donc c'est un bouquin dans lequel j'ai essayé de tisser des liens entre l'asservissement des femmes, surtout les femmes cisgenres, notamment vu la façon dont elles sont élevées et les attentes de la société à leur égard. Donc des liens entre l'oppression des femmes à travers l'alimentation, que ce soit l'agriculture, que ce soit la gastronomie, que ce soit les tâches domestiques, la préparation des repas, ou que ce soit les injonctions à la minceur, par exemple, ou la grossophobie. Et après, on parlera un peu de queer, mais plutôt vers la fin. C'était pas le sujet, mais c'est toujours important d'en parler. Et du coup, toutes ces injonctions et l'alimentation a toujours été instrumentalisée pour asservir les femmes et les maintenir dans un état d'oppression par les hommes, du coup, et pérenniser la domination masculine cis, qu'on appelle donc le patriarcat, qui n'est toujours pas tombé. On attend. C'est long. Du coup, en écrivant ce livre, j'ai eu pas très longtemps pour l'écrire. J'ai eu 3 mois. Donc j'ai dû bouffer des essais, des bouquins, des concepts, des réflexions. C'était hyper enrichissant, mais c'était un peu désespérant, j'avoue. Parce que tu deviens un peu pessimiste quand tu lis autant de trucs là-dessus. Et j'ai découvert, parce que moi je suis pas du tout engagée dans des assauts ou des luttes antispécistes, je savais ce que c'était être vegan, mais le mot antispéciste je l'avais croisé, mais je savais pas vraiment ce que c'était, et je savais surtout pas tout ce qu'on avait théorisé autour en fait. Du coup j'ai découvert en écrivant le livre que pas mal d'autrices, et je dis autrices vraiment parce que c'était que des femmes que j'ai lues sur ce sujet vraiment, qui théorisaient un lien entre sexisme et spécisme du coup. Le mot est entré, spécisme, dans l'édition 2017 du dictionnaire Le Robert. Et dans le dico, il est écrit que c'est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, plus spécialement la supériorité de l'être humain sur les animaux. Et pardon ?
Est-ce que tu peux juste répéter la citation ?
Ouais, ça marche. Ok. Ça, tu vois, je commence déjà, quoi. Désolée. Donc, d'après le Robert, le spécisme, je cite vraiment la définition, c'est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, plus spécialement la supériorité de l'être humain sur les animaux. Et le sexisme, la définition du dico, alors là, c'est le Larousse. C'est tout simple, hein, c'est une attitude discriminatoire fondée sur le sexe. Oui, c'est écrit sexe. Du coup, quand on dit, mais comment ça, c'est quoi le rapport entre spécisme et sexisme, on dit, oui, les femmes, c'est pas des animaux. T'es là, genre, nous sommes des animaux, mais bon. En fait, c'est compliqué de faire comprendre à des gens qui sont ni dans une lutte ni dans l'autre et qui en sont un peu, et je comprends, cette posture un peu défensive. Donc parce qu'il n'y a pas d'escalope de femmes au supermarché, on ne vérifie pas vos gencives comme un cheval quand on vous embauche, encore qu'on n'est quand même pas très loin. Et surtout, à travers l'histoire, en fait, c'est que le statut des femmes, c'est toujours trouver un mi-chemin entre celui des hommes et des animaux. Et l'homme, alors quand je vais dire l'homme, je parlerai toujours de l'homme avec un petit H, hein, sinon je dirais l'être humain, évidemment. Et l'homme s'est toujours construit en se différenciant à la fois des animaux et des femmes, qu'il a toujours estimé inférieur. Et le maître étalon de l'humanité, ce qu'on nous fait passer pour la neutralité, c'est donc le masculin. Et dans la langue française, notamment, on le voit bien, hein, quand on parle d'écriture inclusive, il y a des gens que ça hérisse complètement, et le masculin l'emporte sur le féminin, etc. Je vais utiliser un mot barbare, mais je vais l'expliquer tout de suite. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, genre, c'est génial, mais à la fois, what? C'est pas de moi, hein, ce mot, c'est du philosophe Jacques Derrida. Et ce mot compliqué, un peu barbare, c'est carno-phallogocentrisme. Je l'explique tout de suite. Donc, ce que veut dire notre bon vieux Jackie, c'est que celui qui détient l'autorité sur la nature, les femmes, les enfants, c'est celui qui possède le logos, donc c'est à la fois la parole et la raison, le phallus, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est le phallus, et celui qui s'impose en ingérant la chair, donc carné, donc carno-phallogocentrisme. Et en ingérer la chair, c'est pas seulement manger, c'est aussi c'est consommer l'autre en le mangeant certes, mais aussi par le meurtre ou par l'exploitation. Donc c'est celui qui va posséder le corps de l'autre. Donc déjà, en récupérant pour lui l'exclusivité ou la supériorité du logos, donc de la parole ou de la raison, l'homme a condamné d'emblée les femmes, les animaux au silence. Voilà, tout simplement. Et il a hiérarchisé les êtres vivants. Donc homme supérieur à femme, on parle de personnes cisgenres, supérieur à animaux, supérieur à plantes. Donc en faisant ça... Ouais, ça marche, désolée. Donc en faisant cette hiérarchisation, tu dis, toi t'es inférieur, donc ce que je te fais subir est acceptable. Donc on voit déjà comment on peut rapprocher, de façon un peu... grossière déjà, sexisme et spécisme. Le sexisme, ça peut être considéré comme un spécisme appliqué aux femmes, tout comme le racisme peut être appliqué, de façon grossière encore une fois, comme un spécisme appliqué aux personnes non blanches. Mais toutes ces discriminations, c'est des pures constructions culturelles qui veulent juste une chose, c'est démontrer et justifier la supériorité d'un groupe d'individus sur un autre. Et c'est une des logiques qui sert par la suite à justifier l'exploitation d'un groupe sur l'autre. Donc esclavagisme, colonialisme, carnisme, patriarcat. Alors, dans mon bouquin, dans le troisième chapitre, je pose une question volontairement provocante qui est, est-ce qu'on peut être féministe et carnivore ?
C'est quoi ?
Est-ce qu'on peut être féministe et carnivore ? Et c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points du féminisme, hein, parce que pour moi, c'est pas un permis à points, le féminisme. On n'est pas là en train de dire « t'aimes le rap ?»« Ah, désolé, t'es pas féministe », par exemple. Donc on va revenir beaucoup en arrière. À la préhistoire, on ne s'embarrassait pas de réflexions éthiques à l'époque, parce que si s'était posé la question du spécisme, l'Homo erectus n'aurait pas survécu longtemps, a priori. On mangeait certes énormément de plantes, c'était indispensable, mais on mangeait beaucoup de viande, c'était indispensable pour ravitailler le plus grand nombre de gens. Un peu plus tard, au Paléolithique, on s'est sédentarisé, on s'est installé, on a arrêté d'être des gens qui allaient d'endroit en endroit, la plupart du monde. On a découvert l'agriculture, mais on a continué à manger de la viande parce que bon bah on a toujours fait comme ça. Et en revanche, la survie du groupe et sa vitalité dépendaient d'une part du nombre d'individus qui étaient dans ce groupe, surtout quand il y a d'autres tribus qui lorgnent sur vos ressources, parce que dès lors que vous vous installez, vous accumulez des ressources, et ça donne lieu à des conflits pour récupérer le gros, quoi. Et qu'est-ce qui assure la vitalité d'un groupe ? Eh bien, ce sont les seules personnes qui peuvent, à l'époque, donner la vie et la nourrir pendant un certain temps, les femmes. Du coup, à cette époque-là, les femmes deviennent une ressource très précieuse que les hommes s'arrogent le droit de voler, de s'échanger contre plein de choses, contre une trêve, contre des terres, un territoire, contre des ressources ou contre d'autres femmes pour éviter l'endogamie. L'endogamie, c'est se maquer et forniquer et enfanter entre personnes d'un même groupe. Donc on va éviter quand même de faire l'amour avec ses cousins, quoi. Et ça, c'est la théorie de l'alliance que de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Donc théorie de l'alliance. Et c'est ce que Françoise Héritier, qui était aussi une anthropologue, appelle un contrat entre hommes. Donc théorie de l'alliance, parce qu'on s'allie pour pas tous niquer ensemble et faire des enfants ensemble. Et puis contrat entre hommes, parce qu'elle a remarqué que ça marche que dans un seul sens. Parce qu'elle n'a pas vu de société dans le monde où ce sont les femmes qui s'arrogent les hommes et qui les échangent, par exemple. Donc, je cite encore une sociologue qui s'appelle Colette Guillaumin, qui, si vous avez l'occasion de pouvoir lire des choses qu'elle a écrites, vraiment, je vous conseille. C'est extrêmement, ça m'a complètement fait exploser plein de barrières. Elle dit qu'en fait, à ce moment-là, les femmes deviennent des biens femelles. Donc, pour plusieurs historiennes et historiens, en fait, c'est là, avec ce contrat entre hommes, avec cette théorie d'alliance, avec cet échange de femmes et cet accaparement du corps des femmes, c'est là que commence le patriarcat. C'est des théories, évidemment, personne n'est là pour, n'était là pour le savoir, le vérifier. Elle s'appelle, alors, celle d'avant, les biens femelles, c'est Colette Guillaumin, et pour l'historienne qui a écrit un bouquin très intéressant sur le point de départ du patriarcat, elle s'appelle, pour ceux et celles ou celles qui veulent lire, ça s'appelle Gerda Lerner, G-E-R-D-A-L-E-R-N-E-R. C'est très très intéressant ce qu'elle explique. Donc maintenant on va passer à la viande. La consommation de viande, ça a toujours été un symbole de domination, de pouvoir. Moi, homme, je suis maître de la nature, je ne suis pas sensible comme vous les femmes, parce qu'il y a aussi tous les stéréotypes de genre qui sont liés aux femmes, la sensibilité d'un côté, l'autorité de l'autre, etc. Le concret, l'abstrait, la réflexion, l'action. Donc, moi, homme, maître de la nature, pas sensible comme vous, les femmes, être inférieures, je prouve ma domination en tuant les espèces que j'estime inférieures. Et donc, tout ça, ça s'inscrit dans une logique viriliste qui est dictée et construite elle-même par une construction culturelle, le genre, car le genre est une construction culturelle, contrairement au sexe biologique. Et tout ça, ça s'appuie donc sur cette différenciation, cette dichotomie, du coup, entre hommes et femmes, en tout cas cisgenres. Donc, comme je disais, d'un côté, les hommes, c'est dur, les femmes, c'est plutôt doux, les femmes sont instinctives, les hommes ont une intelligence, les hommes sont actifs, les femmes seraient passives. Et dans le cas de la viande, cette construction culturelle, elle s'articule pour moi autour de trois idées reçues. Première idée reçue, les hommes, cis, naîtraient avec un goût inné pour la viande. Et ça, c'est fou parce qu'on l'entend encore, quoi. Un goût inné. Donc ils sont nés avec un goût plus fort que les femmes pour la viande. Ils sont pour la viande. Que les hommes auraient quelque chose de différent biologiquement, préféreraient la viande, et que les femmes, un peu moins. Bon, évidemment, c'est pas scientifique du tout. Il n'y a rien qui corrobore, qui justifie, qui prouve ces stéréotypes-là. Ce sont des stéréotypes. En revanche, on a une société patriarcale où l'obsession, c'est quand on valorise quelque chose d'un côté, on le dévalorise de l'autre. Donc, ce qui est masculin est très valorisé. Par exemple, la force. Et on dévalorise ce qui est associé au féminin. Les femmes seraient moins fortes. Donc les femmes sont dévalorisées. Tout comme une femme qui est forte, une femme qui a une grande gueule, une femme qui est ambitieuse. Quand c'est une femme, on dévalorise ses qualités, alors que quand c'est un homme, elles sont valorisées. Et cette dévalorisation, elle passe aussi par l'alimentation. Par exemple, on dit que le rosé, c'est pas du vrai vin. Enfin, un truc de meuf. Le vin rouge, ça, c'est du vrai vin de mec, ça. Ça a du tanin, là, ça a du corps, quoi. Du coup, les sodas light, c'est pas des vrais sodas. Le coca rouge, c'est du vrai soda. Ça, c'est un vrai truc. Mais dans la viande, c'est la même chose. Dans les êtres vivants qu'on mange, la vraie viande, c'est pas le poisson. J'étais dans le train, là, dans le TGV, pour venir ici, parce que j'habite à Paris. Et donc, déjà, il y avait évidemment plus la seule option végétarienne de la carte, alors qu'on venait de partir. Et surtout, donc, il y a un petit V vert à côté des options végétariennes du menu. Et ils font un plat de boulgour au saumon fumé, et il y avait écrit V. Voilà. Donc j'ai pas été dire à la pauvre nana qui est pour rien, hein, qui est juste derrière le comptoir, mais j'étais là, mais... Et il y a encore plein de gens qui te disent, mais t'es végétarien, mais tu manges des sushis, t'es là. Alors, on va revenir au début des choses, en fait, car les poissons sont des êtres vivants, sont des animaux. Mais du coup, le poisson, c'est pas un vrai animal. C'est un truc de nana, quoi. Et là-dedans, on voit aussi les injonctions à la minceur et au régime, puisque tout ce qui est viande blanche ou poisson, par exemple, c'est des aliments minceurs, puisque c'est hypocalorique. Les salades, les légumes, les fruits, les régimes végétariens et encore plus les régimes véganes sont féminins. Ils sont dévalorisés. Et quand des hommes sont végétariens ou véganes, les autres hommes, pas tous, je ne fais pas des généralités, mais d'autres hommes leur disent « mais c'est un régime de bonne femme, quoi. C'est un régime de nana. T'as un mec, tu devrais manger du sang, tu devrais manger des animaux morts. C'est pas un truc pour les vrais hommes virils hétérosexuels, les légumes et les fruits. C'est faible. C'est trop facile de manger des fruits et légumes. » Donc cette première idée reçue, c'est que les hommes aimeraient naturellement le soda plein de sucre, les frites, le whisky, parce que donc il y a aussi des alcools virils, et le chocolat noir, parce que le chocolat au lait, c'est pour les gonzesses, quoi. Donc aujourd'hui, on constate encore que la viande, c'est un aliment qui est perçu déjà comme un aliment, pas comme un être vivant qui a été abattu, mais considéré et même plébiscité comme un aliment purement masculin. Et ça amène à la deuxième idée reçue, qui est que l'homme, donc encore une fois avec un petit H, hein, l'homme cisgenre aurait besoin de plus de viande que les femmes. Donc encore une fois, ça n'est pas vrai. Et je ne sais pas si... Alors, pardon, c'est une question con hein, que je vais poser, mais est-ce que la marque Charal existe en Suisse? La marque, les steaks et tout Charal. Ouais. Bon, parce que du coup, c'est une marque de viande en supermarché, voilà. Et leur pub s'ouvre, et j'aurais dû mettre le son là, faudrait que je le trouve, par une signature sonore, et ça fait genre « Charal !» Donc c'est un mec qui vraiment, genre homme des cavernes, quoi. Vraiment, c'est ponctué, et c'est depuis que je suis petite, hein, c'est une marque qui est ancienne, c'est toujours ponctué par un truc un peu « le vrai bonhomme des cavernes !» comme ça. Et ça met en scène surtout que des hommes. Vous allez voir, je vais vous donner deux exemples. En fait, moi, je trouve ça hallucinant. Et quand j'ai revu ces pubs pour écrire mon bouquin et tout, je me suis dit, mais en fait, j'avais jamais perçu ça. Enfin, à quel point c'était sexiste dans les deux sens, misogyne, incroyablement misogyne. Donc, c'est que des hommes. Il y a une pub où il y a un type qui court après une gazelle qui, elle-même, est poursuivie par un guépard. Et c'est lui, l'homme, qui chope la gazelle. Et le slogan, c'est « C'est qui le plus grand des carnivores ?» Ouais. Et il y a trois exemples, vous allez voir, ça va crescendo, quoi. Le deuxième, il est, je trouve, mais... Enfin, c'est scandaleux. Il y a un type qu'on voit assis en face de ses parents sur le canapé, et il fait, je mets des guillemets, hein, mais il fait son coming out de carnivore. Et les parents sont en larmes. Genre, mais comment ça tu manges de la viande, on a tout raté dans ton éducation. Donc, sous-entendu, quand t'es un vrai mec, c'est con parce que la société, elle valorise pas les vrais bonhommes qui mangent de la viande. Et c'est assez atroce, quoi. Ça renverse complètement le truc. Comme s'il annonçait quelque chose que la société ne valorisait pas. Et qui n'était pas la norme dans la société, donc le dogme carniste, quoi. Et les parents sont en larmes, genre, mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour avoir un fils qui mange de la viande? Et je trouve ça incroyable de renverser, de se poser en victime aussi, alors que c'est un type qui annonce à ses parents qu'il mange de la viande. Et là, ben, dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui se passe. Du coup, c'est vraiment comme si la société... Et en plus, cette pub, elle est vieille, hein. Donc, c'est pas du tout... récent avec, les débats autour du véganisme, etc., et de consommer moins de viande, c'est vraiment une vieille pub, quoi. Et la troisième pub est là, voilà. C'est un couple hétéro cisgenre, un homme, une femme qui sont au lit, et le type mord la cuisse de sa femme, et le slogan, la voix off, dit « Depuis combien de temps n'avez-vous pas donné de viande à votre mari ?» Et là, t'es là, on coche les cases, on coche le bingo du patriarcat hétéronormatif, incroyable. Donc, double sous-entendu, depuis combien de temps t'as pas filé de viande, toi, femme, qui est censée faire à manger à ton mari ? Et deuxième sous-entendu, bande de castratrices végétariennes. Bon, donc encore une fois, le stéréotype des hommes qui auraient besoin de manger de la viande comme ça tout le temps, c'est pas scientifique, c'est le contraire d'ailleurs. Si on parle de personnes cisgenres, les personnes qui ont leurs règles, qui peuvent tomber enceintes, ont besoin de beaucoup plus de fer qu'un homme cisgenre. Donc c'est même complètement, voilà. Et le fer, on ne le trouve pas que dans la viande, évidemment. Le fer, on le trouve dans les abats, certes, les huîtres, la viande rouge, mais dans le gingembre, je ne vais pas apprendre ça aux gens qui sont ici. Le cacao, les lentilles. Moi, j'avais appris que le gingembre, le cacao et les lentilles contiennent plus de fer qu'un cœur de bœuf. Ouais, ça me dégoûte aussi, le cœur de bœuf. Mais j'étais... Et donc, c'est un peu une astuce pour dire « Non, mais j'ai besoin de manger plein de chocolat parce qu'il y a plus de fer que dans un cœur de bœuf. » Sorry. Donc, troisième et dernière idée reçue. J'avais trouvé que c'était gingembre, cacao et les lentilles qui contiennent pour 100 grammes plus... Alors, c'est du fer... comme on dit, non héminique, donc qui ne vient pas du sang, qui ne vient pas d'un animal. C'est du fer qui vient donc d'un végétal. Donc c'est une bonne astuce pour se gaver de chocolat. Troisième idée reçue. Pardon. D'accord, j'étais là. C'est marrant d'avoir le truc quand j'étais là. Grave. Donc, troisième idée reçue, dernière idée reçue, l'homme, et a fortiori l'être humain, a besoin de viande, point, sinon il meurt. Je pense qu'il y a plein de gens dans cette salle qui ne mangent pas de viande, qui, à part si on, d'un coup on est dans, je sais pas, dans l'au-delà et que tout à coup, je ne sais pas, on a une expérience hors vie. Donc ça voudrait dire déjà que tous les véganes du monde ont découvert le secret de l'immortalité. Dans ce cas-là, il ne faut pas être égoïste, il faut partager quand même, s'il vous plaît. Et on confond surtout, on continue de confondre viande et protéines. Ça, c'est hallucinant, les protéines, c'est indispensable pour le bon fonctionnement du corps, mais comme on disait, on les trouve ailleurs que dans la viande. Mais comme les protéines... ça aide surtout à prendre du muscle et à perdre du gras, on l'associe à la force, prendre du muscle, donc à la masculinité, donc à la viande. Donc les protéines égale viande égale homme. Surtout dans le cas de la viande rouge, je parlais de la viande blanche tout à l'heure, parce que dans la viande blanche, il y a un côté désanimalisé. On ne voit plus l'animal en fait, qui fait l'escalope de poulet qu'on trouve au supermarché. Parce que déjà, il y a l'absence visible de sang, voire de plumes. Donc c'est complètement désanimalisé. Et c'est marketé, donc, comme je le disais, comme un aliment minceur, donc un aliment féminin. Donc on se gave de viande rouge. C'est un problème de santé publique. C'est une catastrophe pour l'environnement. Il y a un chiffre qui m'avait choqué. En 2011-2012, les hommes cisgenres américains mangeaient deux fois plus de protéines animales que nécessaire. Donc, on se surgave de ça, quoi, dans les pays occidentalisés notamment. Et on sait que cette surconsommation de viande rouge, de produits transformés, charcuterie, etc., bah, c'est diabète de type 2, cancer colorectal. En France, J'ai pas les chiffres pour la Suisse, pardon. Mais en France, le cancer colorectal, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier pour les hommes, 6, après le cancer du poumon et avant celui de la prostate. Donc on n'est pas sur des petits trucs anecdotiques, quoi. Et en mai 2015, je crois que c'était en mai, il y a l'OMS, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, qui avait publié une étude sur les effets carcinogènes de la viande rouge. Je vais expliquer carcinogène. Parce que l'OMS disait qu'il y a 34 000 décès par cancer par an dans le monde qui sont imputables, 34 000 décès par cancer chaque année dans le monde entier, qui sont imputables à une alimentation riche en viande transformée. 34 000. Et ça, au lieu d'alarmer des gens, au lieu de pousser des gens à s'informer, ça a juste provoqué un tollé en France de la part des éleveurs, de la part de beaucoup d'élus et de la part des gens sur Twitter, sur Facebook. Un tollé, vraiment un soulèvement, des colères, un scandale de la part d'éleveurs, d'élus, de gens sur les réseaux sociaux et une immense majorité d'hommes cisgenres. Et du coup, on a eu droit à des tirades libertaires qui rappellent un peu la pub Charal avec le coming out carnivore. Et on lisait des trucs, parce que l'OMS n'a pas dit « interdisons la viande ». L'OMS a émis des conseils de santé, a juste dit « il y a quand même beaucoup de gens qui meurent à cause de ça ». Et là, on a eu des « on nous empêchait de fumer »,« on nous empêche de boire ». Bientôt, on va nous empêcher de manger du saucisson, parce que bon, bah, en France, on est quand même très attaché à notre saucisson. J'ai mal à ma France. Qu'est-ce que c'est que ça? Les bobos gauchistes. Oh, c'est le règne du politiquement correct. T'es là, d'accord? Donc, en fait, on n'arrive pas à remettre en France, notamment, et parce que je parle de ce que je connais, remettre en question ce dogme carniste, cette normalité du régime carniste. Parce que la viande, elle est considérée comme un privilège encore. C'est d'abord le privilège de l'être humain sur l'animal. C'est le privilège des riches sur les pauvres. Encore que, de nos jours, la viande, c'est quand même un marqueur de moins en moins social. Puisque quand on devient végane ou végétarien... Pardon. Ouais, pas de problème. Donc je disais, en France, la viande, notamment en France, mais un peu partout, c'est encore considéré comme un privilège. C'est d'abord le privilège de l'être humain sur l'animal, des riches sur les pauvres, et je disais de moins en moins, parce qu'en fait, la viande, on en mange dans plein de milieux sociaux différents, et on voit que c'est toujours compliqué d'annoncer à des parents, à des grands-parents, à de la famille, notamment la famille, qu'on ne mangera plus de viande, qu'on devient un végétarien, végétarienne ou végane. C'est vécu comme une trahison, qu'on vient d'un milieu aisé ou d'un milieu... miséreux, vraiment, où la viande, c'est quand même quelque chose de très important. C'est des transmissions, des valeurs, donc la famille. Donc vraiment, pas mal de gens sont rejetés aussi par leur famille parce qu'on a l'impression d'avoir trahi quelque chose, quoi. Et donc, c'est un privilège, la viande, c'est considéré comme un privilège. Et comme tous les privilèges, quand on a un privilège, on a du mal à s'en séparer, déjà à voir que c'est un privilège, et à s'en séparer. Surtout que petite parenthèse, on justifie la consommation d'animaux, le carnisme, par un argument merveilleux qui est « mais on a toujours mangé des animaux, quoi ». Et ça, en fait, les gens qui disent ça se sentent hyper malins en disant « ah ah, comment tu vas répondre à ça ?» Facile. On a toujours crevé avant que les vaccins soient inventés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à crever à 47 ans avant que les vaccins existent? Ou alors on s'est éclairé à la bougie, du coup on va arrêter l'électricité parce qu'on sait toujours. T'imagines le gars qui a inventé l'ampoule, quoi. Les mecs étaient là genre, mais gars, c'est pas, franchement c'est pas utile, quoi. Genre il y a des bougies, donc je sais pas à quoi ça sert, quoi. Et avec l'enquête de l'OMS que je citais, la médiatisation du végétarisme, des luttes antispécistes notamment, la viande, pour les gens réfractaires à tout ça, c'est devenu une sorte de symbole de liberté ultime, de rébellion. Donc en fait, ils se sentent rebelles en mangeant de la viande. Assez extraordinaire comme retournement de situation. C'est une espèce de doigt d'honneur au politiquement correct Voilà. Je vous emmerde, je mange de la viande, tu vois. Qu'on invoque dès qu'on parle de privilèges. Les gens, quand tu leur dis, toi, t'es quelqu'un de privilégié, ils font, ah, bah, super, voilà, on peut plus rien faire, moi, je suis privilégié, donc j'ai même pas le droit à la parole. Et là, c'est pareil, donc il y a un retournement incroyable. Parce que la viande, elle est perçue comme un retour aux vraies valeurs. Ça n'existe pas, les vraies valeurs. Les vraies valeurs, mais qui sont un fantasme d'une identité d'un pays. Donc, par exemple, pour la France, on estime que la viande, c'est l'identité française, quoi. Et on touche pas à ça. Et alors qu'il n'y a pas d'identité monolithique, il n'y a pas une identité dans un pays donnée pour toute l'histoire de ce pays et jusqu'à la fin des temps. Mais en filigrane, toutes ces vraies valeurs qui sont brandies par beaucoup, par en majorité des hommes cisgenres, c'est des valeurs machistes. Parce que vous vous dites, c'est quoi le rapport ? Elle nous parle de sexisme. Ah ah ! J'en viens. Et c'est la même logique de ces valeurs, ces vraies valeurs, mais c'est des valeurs machistes, qui sont à l'œuvre quand on... Quand je dis on... Hein, quand sont invoquées les menaces de la féminisation de la société. C'est la même chose, c'est pas les vraies valeurs, quoi. On piétine les vraies valeurs. Et en fait, ça, c'est juste des volontés d'égalité, mais c'est vraiment vu comme on écrase les vraies valeurs, la vraie identité qui n'existe pas d'un pays. Et donc... Au fond, s'il est difficile pour plein de gens d'imaginer un monde où les abattoirs n'existeraient pas, autant qu'un monde où les femmes seraient réellement les égales des hommes, c'est parce qu'il faudrait que pour ça, l'homme renonce à tous ses privilèges. Et renoncer à des privilèges quand on est un homme cisgenre, c'est vu comme un signe de faiblesse. Donc en gros, si je peux plus assassiner les animaux pour me nourrir, je suis plus le maître, quoi. De la même manière que si je ne peux plus siffler une femme dans la rue ou lui mettre une main au cul sans qu'elle me retourne une gifle ou qu'elle aille porter plainte, je ne suis plus le maître de l'espace public. Et je l'ai toujours été. Les vraies valeurs de la France, de l'Europe, c'est ça. Les États-Unis aussi, de partout, le patriarcat. Donc en gros, si j'arrête de me comporter comme si tout m'était dû, je perds mon statut de prédateur, je deviens à mon tour une proie. Sauf que s'il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas de proie. Bon, just saying. Donc en gros, si on respecte tout le monde, on ne va pas en crever, quoi. Mais comme les femmes, les animaux continuent d'être considérés comme disponibles, privés de leur consentement, on contrôle leur corps, leur sexualité, leur cycle reproductif. Et quand moi, j'ai lu ces trucs-là, j'étais là. Oh merde. J'avais jamais perçu ça, en fait, fait ce rapprochement entre le contrôle des corps des femmes et le contrôle des corps des animaux. Et comme la viande, les femmes sont fétichisées, désincarnées, déshumanisées, exploitées à travers certains types de prostitution, certains types de pornographie ou d'esclavagisme moderne. D'esclavagisme moderne. Donc aujourd'hui, on a les chiffres des violences faites aux femmes. On a des vidéos d'activistes qui sont diffusées à des heures de grande écoute à la télé, accessibles sur Internet. On ne peut plus faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas savoir à quel point le patriarcat fait du mal à tout le monde, humain et non humain. On peut faire le choix informé d'en avoir rien à foutre. Dans ce cas-là, on devient complice. Mais les animaux sont massacrés pour nourrir les humains. Les femmes sont battues, violées, tuées pour le plaisir de certains hommes et nourrissent elles aussi les êtres humains. Donc la femme est considérée comme un objet, comme un bien femelle, comme je disais au début, femelle, comme les animaux femelles. Et la femme est surtout réduite à un corps qu'on peut sacrifier et consommer. Et en fait, en écrivant le livre, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'insultes animales quand on parle d'une femme. Par exemple, on a gazelle, dinde, pintade, truie, chienne, bichette, cocotte. Bon, pour les mecs, on a, j'ai pas mis, pour les mecs, on a grosse vache aussi, cougar également. Pour les mecs, à part porc ou cochon, et c'est pour dire quelque chose, un mec est un gros porc, on parle de sexe. Comment ?
Étonnant.
Étalon, exactement. Et c'est valorisé, absolument. Mais il n'y a pas l'équivalent de cougar pour les hommes, cocotte, bichette, voilà. Et aussi, les médias en général, le cinéma, la littérature, la télé, plein de choses, animalisent le corps de la femme en le découpant, comme le boucher, en morceaux. Donc, on a des gros plans sur les poitrines des femmes, sur leurs fesses, donc comme on a les gros plans en boucherie sur les escalopes ou les jarrets. Et donc, l'entreprise de transformation qui rend les femmes et les animaux plus désirables vis-à-vis des consommateurs ou des consommatrices, c'est la même logique. Il faut que le résultat soit le plus consensuel possible et le moins bestial. Je veux le moins consensuel possible et le moins... Comment ? Je disais, la transformation qui veut rendre les femmes et les animaux plus désirables à être consommés, quand je parle des escalopes qui sont sous vide, où on ne voit plus l'animal, il n'y a plus de sang, il n'y a pas de plume, etc. Il faut que ce soit le moins bestial. Il faut que les femmes apparaissent plus comme des animaux, mais comme des espèces d'entités artificielles. Les femmes, cisgenres et pas cisgenres, les femmes doivent être épilées, sentir bon, avoir une peau lisse, mettre de la crème, pas avoir trop de gras, correspondre au canon de beauté en vigueur comme des morceaux de viande doivent être correspondre à ce que les consommateurs veulent acheter et ne voient plus la trace de toute la souffrance qu'il y a eu derrière. La viande ne doit pas avoir de poils, de vaisseaux sanguins, on ne doit pas voir l'animal derrière, ni la souffrance. Donc en gros, pour plaire, que ce soit les femmes ou les animaux tués qu'on donne à consommer, il faut désincarner. Donc il faut vraiment qu'on ait l'impression que c'est quelque chose qui a été créé en laboratoire. Que ça soit un peu comme une pomme, quoi. Un truc où il n'y a pas... Voilà, on se dit, une pomme, c'est consensuel. Une pomme, ça fait chier personne, une pomme. Voilà. Ou un savon. Du coup, on peut rapprocher, pour moi, la démarche des féministes et celle des activistes antispécistes, parce qu'il y a la même volonté qui est derrière, qui est dénoncer une souffrance en la rendant visible et provoquer une fissure ou une brèche dans... un appareil idéologique de pensée dominant et normatif, quoi, qui serait la norme. Et j'ai découvert un livre, alors moi je me sens con, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont véganes depuis longtemps et antispécistes ici, j'imagine, mais en écrivant mon bouquin, moi j'ai découvert les écrits de Carol J. Adams, qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande ». Et donc, elle, pour elle, faire cette démarche de rendre visible la souffrance, elle dit, c'est changer un fait en contradiction. Et je trouve que c'est une phrase mais, qui met pile, changer un fait en contradiction. Donc, elle écrit là-dedans. Et j'ai pensé, ma maman est nourrice depuis que je suis petite. Et du coup, chez mes parents mangent de la viande. Et j'ai pas mal d'amis qui sont devenus parents et qui refusent de dire à leurs enfants, avant un âge avancé, que la tranche de jambon dans leur assiette, c'est un cochon. Que ce qu'il y a dans les raviolis, c'est un bœuf. C'est genre, c'est de la viande, quoi. Okay. Du coup, moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on s'interdit, on interdit aux enfants d'avoir conscience des choses et de pouvoir faire un choix ? Et pourquoi ? Parce que les gamins, ils vont dire « Mais non, c'est beaucoup trop mignon, un cochon, je veux pas le manger. » Bah, peut-être que c'est eux qui commencent à avoir une réflexion un peu intéressante, quoi, s'ils refusent de manger des animaux vivants qu'ils ont vus et qu'ils ont caressés trois semaines avant à la campagne, quoi. Pourquoi nous, adultes, ça ne nous dérange plus, en fait, de savoir que cet animal qu'il a, il a été tasé, il a souffert et on l'a tué ? Donc, j'ai des débats régulièrement, notamment avec un ami il est plus végétarien, bref, c'est compliqué. Mais il était végétarien et il refusait d'expliquer à sa fille que c'est de la viande qu'elle mange. Et la viande, c'est pas de la viande, c'est un animal. Et vraiment, on s'est engueulé très fort, quoi. Je comprenais pas, en fait, comment il refusait à sa fille ce choix. C'est un choix. Je veux dire, aujourd'hui... en plus, c'est quelqu'un qui a des sous, il a un habitus social, il est dans un quartier bourgeois, donc il a les moyens d'acheter plein de choses, il a du temps pour faire à manger. Donc je comprends les impératifs de temps aussi pour des familles qui n'ont pas connaissance d'alternatives aux protéines animales. Donc on s'est bien engueulé sur ce truc-là. Bref, lui me justifiait aussi le régime carné, etc. Et cette justification du régime carné et cette normalisation, donc dire « mais c'est normal de manger des animaux », c'est des constructions qui sont aussi culturelles que le patriarcat. Ça sort pas de nulle part, le patriarcat, et le régime carniste non plus. Et pour moi, donc, ce que féminisme et antispécisme ont en commun, c'est vouloir déconstruire complètement un système qui est millénaire et qui est un vrai système qui est là, et c'est dur de l'ébranler, c'est dur de le réduire en cendres. C'est une lutte contre des schémas qu'on nous a mis là-dedans depuis très longtemps. Et c'est dur parce que toute déviance à une norme, que ce soit l'homosexualité, parce que la norme c'est l'hétérosexualité, que ce soit le végétarisme, que ce soit même la monoparentalité, ou même le polyamour, c'est considéré immédiatement comme une menace pour la société. Et vu que le régime végétal, c'est quelque chose qui est hors d'un schéma donc normatif carniste, de dire c'est la norme d'être carnivore et de manger de la viande, ça continue de déranger pour ça. C'est considéré comme une vraie menace. On parlait tout à l'heure des gens qui disent « ouais, on ne peut plus rien faire ». Donc on a beaucoup de problèmes à se débarrasser de nos réflexes spécistes ou sexistes, puisque depuis qu'on est enfant, en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est des choses qu'on nous a inculquées comme étant normales. On ne voit même plus, en fait, où est le problème. Mais une fois qu'on en a pris conscience, c'est compliqué de revenir en arrière. Et il y a un terme, le terme carnisme, c'est une psychologue et activiste végane, Mélanie Joy, qui l'a inventé. Et elle parle, il y a un truc que j'aime beaucoup, elle parle de meat insight, donc un déclic qui, elle, l'a poussée vers un régime végétal un jour. Voilà, elle a eu ce déclic et elle n'a pas pu revenir en arrière. Et du coup, il y a ce meat insight, et on pourrait le rapprocher de ce feminist insight, donc un déclic féministe qui fait que, au moment où tu prends conscience de toutes les violences faites aux femmes dans la société, c'est compliqué de ne plus les voir. Et tu les vois partout, quoi. Dans la rue, dans la moindre parole, dans les livres, dans la culture, dans le corps, la façon de se comporter. Tout acte, en fait, tu te dis, putain, mais en fait, c'est là, quoi. Ça devient un peu obsessionnel, quoi. Donc, du coup, est-ce que le féminisme est nécessairement végétarien ? Bah, comme je disais, c'est une question que j'utilise pour un peu ouvrir à d'autres questions comme l'antispécisme. Bien sûr qu'on peut être féministe et manger de la viande. Comme je disais, c'est pas un permis à point, le féminisme. C'est pas, t'es pas une bonne ou un bon féministe parce que tu fais pas tout comme la pureté militante le voudrait, ou bien tu fais un travail sur toi. Pour moi, c'est vraiment un cheminement et une réflexion personnelle. Chacune va à son rythme. Et en premier lieu, le plus important, c'est une prise de conscience, quoi. C'est se dire, ah tiens, c'est intéressant de rapprocher les deux. C'est peut-être pas demain que cette personne va devenir végane ou s'engager dans la lutte activement féministe ou antiraciste ou anti-homophobie ou des luttes LGBTQI+. Mais on peut espérer une convergence des luttes en posant des questions un peu provocantes comme ça. Donc, pour paraphraser l'autrice célèbre, pour moi, on ne devient pas féministe, on ne naît pas, pardon, féministe, on ne naît pas végane ou végétarien, végétarienne ou antispéciste, on le devient, quoi. Voilà. Merci à tous et à toutes.